Bonjour à vous qui nous rejoignez sur le net, bonjour à vous qui nous rejoignez sur la télévision, que Dieu vous bénisse. Ce matin, je vais vous faire une lecture dans Genèse 39, 17, 20. C'est l'histoire de Joseph. Vous savez, Joseph avait été au service d'un homme et il lui avait donné toutes les responsabilités dans sa maison et puis il était souvent en voyage. Joseph était un beau garçon et voilà que la femme du maître de maison a essayé de le draguer et Joseph a refusé. Et donc quand la femme était vexée évidemment, donc elle a fait tout un cirque, elle s'est mise à crier et puis elle a ameuté tout le monde. Et au verset 17, elle parle à son mari et elle lui dit en ces termes: « Le serviteur hébreu que tu as amené est venu vers moi pour se moquer de moi. » Mais comme j'ai élevé ma voix et que j'ai crié, il a laissé son vêtement auprès de moi et s'est enfui. Et sitôt que le maître de Joseph eut entendu les paroles de sa femme, qui lui disait: « Ton serviteur m'a fait ce que je t'ai dit », sa colère s'enflamma. Et le maître de Joseph le prit et le mit dans une étroite prison, dans l'endroit où les prisonniers du roi étaient enfermés, et il fut là en prison. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Il y a quelques jours, j'étais chez des amis et au cours du repas, c'était un repas tranquille, classe, mais quand même joyeux, il y a un homme qui a fait un geste un peu malheureux et son verre a fait un drôle de mouvement. Il a voulu le rattraper, mais il n'a pas pu, il a fait comme ça et puis le verre est tombé, il s'est cassé. Ça arrive, hein. Et la femme qui était là a dit: « Ah, super, c'est un signe de chance !» Et on a tous entendu dans notre vie ce truc-là, « Ah, quand on casse un verre, c'est un signe de chance !» Et moi, je suis curieux, vous me connaissez, et j'ai demandé: « En fait, ça vient d'où cette histoire de « quand on casse un verre, c'est un signe de chance ?» Alors, il y a une autre dame qui a dit: « Mais j'ai entendu dire qu'autrefois, on disait ça pour que la personne qui avait cassé le verre se sentent pas trop mal à l'aise, vous comprenez, pour ne se sentent pas trop gênés d'avoir cassé un verre. » Et puis, on allait commencer à manger, et tout à coup, au bout de la table, il y avait un monsieur que j'avais remarqué, mais qui avait encore rien dit. C'était un monsieur d'un certain âge, avec une barbe grisonnante, et j'avais remarqué parce qu'il avait une kippa. Je me suis dit, ça doit être un juif. Et il a fait un signe comme ça, et tout le monde s'est tu, tout le monde s'est arrêté, tout le monde a regardé vers cet homme, et il a parlé. Tout le monde, c'était frappant parce que, bon, moi je ne le connaissais pas, mais il semblait que tout le monde le connaissait parce que tout le monde avait l'air de se dire, il va dire quelque chose d'important. Et il a dit: Dieu a donné à chaque homme, à chaque femme, un capital de chance. Ainsi, chaque homme et chaque femme qui arrive au monde a un capital de chance. Un capital de chance qu'il use tout au cours de toute sa vie. Chaque homme, chaque femme peut faire en sorte de faire fructifier ce capital de chance. Et son capital de chance ne fructifiera que s'il l'utilise uniquement à des fins nécessaires. Ou bien, il peut gaspiller son capital de chance en l'utilisant pour des choses vaines, pour des choses futiles, pour des choses qui n'en valent pas le coup. Tout le monde écoutait. Il a fait un moment de silence. Et puis, il a commencé, il a repris la parole et il a dit: « Nous, les Juifs, nous disons aussi bonne chance quand quelqu'un casse un verre. Mais ça signifie, ce bonne chance, tant mieux. Tu n'as pas dilapidé ta chance en cherchant à éviter que le verre se brise. Ainsi, vous pourrez utiliser cette chance-là pour une chose plus importante. C'est pas beau ça ? Je trouvais ça magnifique, magnifique. J'espère que vous avez bien compris. Dans la vie, il y a des choses importantes, et puis il y en a qui le sont moins, et puis il y en a qui ne le sont pas du tout. Ces derniers temps, Plusieurs d'entre vous, vous savez que j'ai cherché à éviter que quelque chose d'important ne se casse. Mais quand j'ai entendu ce rabbin, j'ai compris que j'étais en train de gaspiller mon capital chance. Dans ma vie, j'ai vécu des choses magnifiques. Vous n'avez qu'à lire l'oracle, vous verrez. Ceux qui sont venus avec moi, ils savent. Sauf Francis, parce que quand il est venu, ça, à chaque fois, ça a foiré. Il y a eu un coup d'État ou l'organisation n'était pas bonne. C'est bon. Mais autrement, j'ai toujours vécu des choses absolument extraordinaires. Et je disais à un frère l'autre soir que c'est quand même aussi extraordinaire que tous les élèves qui étaient avec moi à l'école biblique, il n'y en a pas un qui est resté pasteur. C'est quand même bizarre, ça. Il n'y a que moi. Ils ont eu leur capital de chance, mais ils l'ont gaspillé pour des futilités. Il y a tellement de futilités qui se produisent dans les églises. Je me souviens de la première église dans laquelle j'ai mis les pieds, c'est Raphaël Duval qui m'y avait placé, c'était l'église de Pentecôte à Lausanne, c'était tout près de la sortie du métro, là, le seul et unique métro qu'il y avait à l'époque. Et en 2 ans, on a vu 4 pasteurs défiler. Ils n'arrivaient pas à tenir cette église. Pourquoi ? Je vais vous le dire. Il y avait 4 sœurs, c'était des frangines, et il y en avait une qui avait pour nom de famille Baumann, et on les appelait les 4 sœurs Baumann. Elles ne s'appelaient pas toutes Baumann, mais on les appelait les 4 sœurs Baumann. Elles étaient vraiment fortes, toutes les 4, et elles mettaient la panique dans cette église, à coups de prophétie, de médisance, et elle parlait, et elle tournait les gens contre le pasteur. C'était une horreur, et les pasteurs cherchaient à empêcher les dégâts, comme l'autre soir qui cherchait à rattraper son verre qui se casse, qui était en train de tomber de la table. Mais c'était en vain. À la fin, les uns après les autres, ils sont partis, découragés, abattus et même un peu dépressifs. En y pensant, j'ai vu souvent ce cas se reproduire, des pasteurs qui gaspillaient leur capital de chance pour finalement pas grand-chose. Ces 4 frangines, ces 4 sœurs, ils avaient qu'à les foutre dehors. Réunion extraordinaire, et puis on les fout dehors, puis voilà, c'est terminé. Il y a assez d'églises dans le coin. Ben non. C'était elle qui arrivait à mettre tout le monde, et tout le monde retombait de nouveau dans le même truc. À Yverdon, il y en avait une de ses sœurs Baumann qui était là, et elle ramenait ses 3 autres, et il y avait une église de Pentecôte où j'ai été stagiaire pendant quelques temps, là, à Yverdon, et ça a été le même truc, avec les mêmes sœurs. Et c'était un pasteur qui s'appelait Francis Margot, je ne sais pas s'il vit toujours, mais il a dû se tailler, il a dû laisser la place, découragé, amer, vidé, lassé par tous ces esprits contraires, qui n'étaient pourtant pas des lumières, ces bonnes femmes. Eh bien, ça peut se produire dans la famille, ça peut se produire dans le milieu professionnel, ça peut se reproduire partout. Qu'il y a des gens qui vous mettent des bâtons dans les roues, et puis vous voulez vous battre, vous voulez essayer d'empêcher ce verre de se casser, et puis vous êtes en train de gaspiller votre capital chance. Laissez tomber ce verre! Mais laissez-le tomber! Gaspillez pas votre capital chance, mes frères et sœurs, pour essayer de rattraper une babiole qui est en train de tomber. Parce que tout ça, c'est des babioles. Laissez ce verre se briser. Ainsi, vous allez économiser votre capital d'énergie, d'intelligence, pour le consacrer à des choses et à des gens qui en valent la peine et qui sauront l'apprécier. Vous voyez, mes frères et sœurs, Joseph, dont on vient de parler, il avait la femme de son maître, hein, vous avez vu, qu'il draguait, et il a laissé tomber le truc, c'est-à-dire que c'était pour lui. S'il avait pu attraper tout, c'était un verre formidable, c'était une chance, un morceau de chance, un moment de bonheur, un moment de plaisir. Mais il a résisté au mal, quelque chose s'est brisé là. Et Joseph a été mis en prison et le verre semblait brisé, c'est-à-dire que ça semblait être une perte. Ça semblait être une perte, mais ça n'était pas une perte. Parce que Joseph en prison a pu sauver le pays entier et même cette folle qui l'avait embêté. Il n'a pas gaspillé son capital chance. Oh, cette belle nana, c'est une chance, n'est-ce pas? Non, il a laissé sa vie être brisée, et en cela, avec cela, il a économisé son capital chance, il a pu l'utiliser pour quelque chose qui était beaucoup plus important. Beaucoup plus important. Est-ce qu'il en avait conscience sur le moment? Non! Bien sûr que non. Mais si vous lisez tout de suite le verset d'après, Dieu l'a richement béni en prison, etc., etc. Vous connaissez tous l'histoire. Si vous avez... Moi, j'aime beaucoup lire l'histoire des gens d'autrefois. Et si vous avez l'occasion de lire l'histoire des pionniers des USA, ceux qui ont fait, qui sont allés dans l'Ouest pour chercher de l'or, ou en particulier l'histoire des Mormons, qui étaient persécutés, qui étaient traités de démons par toutes les églises, et puis encore aujourd'hui, par toutes les églises bien pensantes, bigotes et prieuses, ils étaient traités donc de démons, ils étaient chassés de partout. Si vous lisez leurs histoires, parce qu'ils ont consigné tout ça par écrit, vous allez être frappé de constater que oui, ils parlent des malheurs qu'ils ont eus, mais ils consignaient surtout les moments heureux. Dans leurs écrits, ils passent pas leur temps à se plaindre. Non. Vous verrez qu'ils ont composé des chansons, qu'ils plaisantaient même sur leurs difficultés, qui n'étaient pas les moindres. Et c'est ainsi qu'ils ont parvenu, qu'ils ont réussi à se tenir à distance du découragement et de la dépression. Il faut économiser votre capital chance. Il ne faut pas l'utiliser pour des niaiseries. Il faut économiser votre capital énergie. Il ne faut pas le gaspiller pour des choses et pour des gens qui ne savent pas l'apprécier. Next. C'est votre capital chance. C'est votre capital personnel d'énergie que Dieu vous a confié et chacun doit gérer son talent, son bien et faire attention de ne pas le gaspiller. Alors, qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui l'est moins? Et qu'est-ce qui ne l'est pas du tout? Depuis que nous sommes au château, en une plaisanterie, je ne sais plus comment c'est venu cette histoire-là, mais c'est mon cher ami et frère Stéphane Royer qui l'a inventé, il faudra qu'il me rappelle comment c'est venu, c'est la plaisanterie qui tourne autour des pélicans. Mais je ne sais pas d'où c'est venu cette histoire de pélicans, on en reparlera. Lui, il sait, voilà, il se rappelle. L'autre jour, après avoir entendu ce rabbin, pour moi, j'en frissonne encore. Étant pris dans une tourmente depuis des mois, qui m'épuise, j'ai décidé de m'occuper de choses importantes et de laisser tomber mon verre. Pouf, taf, coplaf. Bof, qui se casse après tout? Qu'il se casse. J'ai beaucoup, c'est beaucoup moins important que ce qui se passe au Niger. C'est beaucoup, beaucoup moins important que ce qui se passe chaque jour là-bas où nos frères et sœurs chrétiens sont assassinés. C'est beaucoup, beaucoup moins important que ce qui se passe au Burkina Faso où des familles entières meurent de faim et de maladie. C'est beaucoup moins important ce verre. Paf, qui se cache, m'en fous. Alors j'ai décidé d'en savoir plus sur le pélican. Parce que Dieu a de l'humour. Et l'humour, c'est quelque chose qui peut nous secourir. Alors, le pélican. Eh bien, le pélican, en Europe occidentale, je vois Stéphane qui rigole, il se demande qu'est-ce que je vais raconter. Mais c'est vrai, vous irez voir, c'est vrai. En Europe occidentale, au Moyen-Âge, le pélican était le symbole de la piété pour les chrétiens. Tu vois, hein? Ça nous fait rire. Nous, on fait des années qu'on plaisante sur le pélican. Je crois qu'il n'y a pas un repas sans qu'on parle des pélicans. Je ne me rappelle plus d'où ça vient. Faut que tu me dises. L'explication était simple. Pourquoi c'est devenu le symbole de la piété? C'est parce que les gens, ils avaient observé le pélican, mais vous savez, ils avaient des observations scientifiques qui étaient quand même très limitées, hein. Donc, ils avaient observé, ils avaient vu, ils avaient compris que le pélican, il prenait dans sa propre chair pour nourrir ses petits. Et ils se sont dit, mais c'est comme Jésus, il a donné sa chair pour nous nourrir, il a donné son sang pour nous nourrir. Et ça avait frappé les esprits. Et vous avez des statues de pélicans presque sur toutes les cathédrales. Mais c'est rigolo, mais c'est vrai. Alors, certains oublient, n'est-ce pas, ces choses-là, un peu comme les Juifs, au cou raide, ils sont connus pour ça, hein, qui oubliaient que la manne, c'était un don de Dieu. Et des fois, on oublie ce qui est important. Ce qui est important, c'est ça. C'est que Jésus a donné sa chair, il a donné son sang pour nous sauver. Pas seulement pour nous sauver pour après la mort, mais déjà maintenant pour nous sauver de même des débris de, comment on appelle ça? De glace, de verre, de machin. Alors, toujours au sujet du pélican, il y a une histoire qui montre une chose importante. C'est donc une de ces histoires du Moyen-Âge. On raconte que par un hiver rigoureux, un pélican a offert sa propre chair à ses enfants. C'est-à-dire, ils l'ont vu puiser dans son, vous savez, dans son grand bec, tout ça. Et puis, il a réussi à survivre pendant quelques jours. Et puis, les petits pélicans ont continué à vivre. Mais il y en a un qui a dit, quand le grand pélican qui les avait nourris est mort, il y en a un qui a dit, ben, tant mieux, j'en avais assez de manger tous les jours la même chose. L'ingratitude. L'ingratitude résulte d'un manque de discernement entre ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Oui, le pélican est bel et bien un symbole du christianisme. Merci Stéphane Royer. Alors, économisons notre capital chance, économisons notre capital énergie, et même économisons notre capital bonté. Parce qu'il y a des gens qui ont besoin de notre bonté. Il y a des gens qui ont besoin de votre bonté. Plus que certains qui s'amusent à marcher dessus, qui sont ingrats, qui ne se rappellent pas d'où ils viennent et qui sont ingrats. Qui ne voient pas ce qui est important. Ce qui a été de fait qui est important. Alors quand quelque chose vous laisse insatisfait, arrêtez-vous sur le champ. Arrêtez-vous sur le champ. Parce que lorsque les choses ne marchent pas, je vous le disais vendredi, quand ça avance pas ou quand ça recule pas, mais que c'est là, ça végète, tout ça, c'est pas bien que ça végète, ça commence à puer. Il y a deux explications. Quand quelque chose qui marche pas, il y a deux explications. Un, ou bien votre persévérance est une mise à l'épreuve, est mise à l'épreuve, votre persévérance est mise à l'épreuve, ça se peut. Ou bien vous devez changer de cap. Mais alors, comment découvrir quelle option est la bonne? La première ou la deuxième? Eh bien, ayez recours au silence et à la prière, mes frères et sœurs, c'est là. Peu à peu, tout va s'éclaircir jusqu'au moment où vous aurez la force, l'intelligence, la sagesse, le pouvoir de choisir juste. Ça peut prendre un peu de temps, ça peut prendre un peu de temps, mais le silence et la prière. Waouh, le ver m'échappe! Quelle horreur! J'arrive pas à le rattraper! Ça, c'est on ne dit pas, on n'a pas le temps parce que ça tombe, ça va vite. Laissez-le se casser. Les mains, on s'en fout. C'est un petit peu comme oh, j'ai cassé ma biscotte! Oui, bon, ben, c'est pas la fin du monde. Il y en a d'autres, hein. Tu prends une autre biscotte, puis voilà, c'est tout, hein. Laissez les biscottes qui se cassent. Vous rappelez, hein. Vous rappelez, Dominique, ça fait bien rigoler, c'est une vieille histoire, ça aussi. Change de biscotte, c'est pas la fin du monde. Il y a des choses plus importantes que ça. Change de biscotte. Et une fois que vous avez pris la décision de changer de biscotte, de cap, oubliez totalement l'hypothèse que vous n'avez pas retenue. Oubliez-la. Oubliez-la. et aller de l'avant. Parce que Dieu, il est le Dieu des vaillants. Il n'est pas, bien sûr qu'il est aussi le Dieu des contemplatifs et tout ça, mais il est surtout le Dieu de ceux qui prennent ses armes et qui se battent et qui gagnent. Mais on ne peut pas se battre en regardant tout le temps dans le rétroviseur. Il faut oublier totalement l'hypothèse que vous n'avez pas retenue et foncer de l'avant. Avec Dieu, vous savez, tout finit toujours bien. Alors, dites-vous cette chose. Si les choses vous font encore souffrir, c'est que ce n'est pas fini puisque tout finit bien. Vous comprenez? C'est pas fini, c'est pas la fin si ça vous fait encore un peu souffrir. Si vous regrettez le verre cassé parce que c'était celui de votre maman que vous avez donné, ou n'importe quoi, si vous avez un regret, c'est que c'est pas encore fini parce que quand ça finit toujours bien avec Dieu. Si vous souffrez encore de la chose qui est arrivée et qui a brisé votre vie, qui vous a obligé à prendre un cap différent, qui vous semble vous coûter cher, eh ben, c'est que vous n'êtes pas encore arrivé à la fin. C'est une bonne chose, vous n'êtes pas arrivé à la fin. C'est super, non? On n'est pas encore arrivé à la fin parce que ça finit toujours bien. Donc, si c'est pas encore bien, c'est que c'est pas fini. Avec Dieu, tout finit toujours bien. Amen. Que Dieu vous bénisse. Seigneur Jésus, je te prie, afin que mes frères et sœurs reçoivent en eux, gravés, ces quelques idées que ce rabbin m'a données, que j'ai développées, que j'ai lues au sujet du pélican, toutes ces choses, de ce verre qu'on doit laisser se casser, de toutes ces choses, du cap qu'il faut prendre, des moments de silence, de prière, qu'ils se souviennent de cela. Et paix aux hommes de bonne volonté, paix aux hommes et aux femmes et aux enfants de bonne volonté. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Merci. Au revoir. Voilà, c'était court ce matin, hein? Mais c'était bien, non?